Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui vous récapitule les actualités sportives de la semaine. Arthur reviendra dans un premier temps sur les performances des clubs français pour le compte des 8e de finale de la Champions Cup. Dans notre Red Journal, on enchaînera avec Pierre qui nous parlera du match entre le TFC et le Racing Club de Strasbourg, peut-être décisif dans la course au maintien. Nous ferons ensuite un rapide tour d'horizon avec les 5 actus marquantes de cette semaine. Et puis hier, c'était l'enfer du Nord, Paris-Roubaix, qu'on aura l'occasion de revivre au regard des chutes, avec Bastien dans notre carte blanche de la semaine. Marie Cantel nous dévoilera nos chances de médaille sur 3 disciplines paralympiques dans notre format en route vers les JO. Et enfin, j'espère que vous avez bien révisé, on achèvera cet épisode avec notre traditionnel quiz. Et on commence par cette semaine de Coupe d'Europe pour les clubs français, et ça s'est plutôt bien passé, Arthur.
Oui, pourtant ça avait mal commencé avec la lourde défaite du Loup, 59-19 face aux Bulls à Pretoria. Mais derrière, les clubs français ont déroulé, ou presque. Les Rochelais s'en sont sortis miraculeusement face aux Stormers dans l'autre match en Afrique du Sud. Ils avaient perdu d'un point leur match de poule sur une transformation à la dernière minute de Manny Libok. Et le scénario a bien failli être le même avant-hier. Sauf que cette fois, l'ouvreur sud-africain a complètement manqué sa transformation, perturbé par le vent. Score final 22-21, victoire au forceps pour le Stade Rochelais qui réussit l'exploit de s'imposer en Afrique du Sud. Une première depuis que les clubs internationaux ont été intégrés à la compétition. Menés 16-0, les Rochelais et leur capitaine Grégory Aldrit se sont offerts une petite revanche face à une équipe blindée d'internationaux sud-africains. En quart, ils retrouveront le Leinster, contre qui ils avaient remporté le titre l'année dernière, d'un petit point encore une fois.
Même résultat, mais physionomie totalement différente pour l'UBB.
Oui, l'UBB confirme son statut de grosse équipe cette année. Ils ont écrasé les Saracens 45-12 malgré plusieurs essais refusés. Doublé pour Deporter, doublé de Matteo Garcia et encore un doublé avec Louis Bielbiaré, les Bordelais se sont régalés. Une victoire en forme de récital offensif et des Harlequins qui se dresseront face à eux en quart la semaine prochaine. Pas de quoi effrayer Bordeaux Bègle qui rêve d'un premier titre cette saison.
Et dans le seul duel franco-français de ces huitièmes, Toulouse a assumé son statut de favori.
Même s'il ne voulait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout était réuni pour une victoire facile. Les franciliens étaient privés de leur charnière titulaire avec le protocole commotion de leur demi de mêlée Nolan Le Garec et l'absence d'Antoine Gibert à l'ouverture. En face justement, c'était les retrouvailles pour Dupont et Ntamack qui formaient la charnière titulaire du stade pour la première fois depuis la finale du top 14 remportée l'été dernier. En face, pas de Camicha non plus pour un Racing véritablement décimé. D'autant qu'à la troisième ligne, le retour de Sia Colissi n'aura pas duré longtemps. Blessé à la cheville, il est sorti avant la mi-temps. C'est finalement plus contre eux-mêmes et contre le vent que les Toulousains ont dû se battre. Sans forcer son talent, le Stade Toulousain bascule en tête 10-0 à la pause. Sans l'assommer, ils ont toujours gardé le contrôle du match et se sont imposés 31-7. En conférence de presse, le coach du Racing 92, Stuart Lancaster, louait la profondeur toulousaine. Une véritable arme qui leur permet d'être compétitifs dans plusieurs compétitions, selon lui. Même privés de Thomas Ramos, ils ont pu aligner une équipe ultra compétitive. Avec des joueurs très polyvalents, ils peuvent se permettre de faire tourner tout en conservant un niveau très élevé. Leur banc leur permet aussi de faire la différence régulièrement. Dimanche, l'entrant Paul Coste était à la conclusion d'une belle action collective pour assommer le Racing à l'heure de jeu. Entre ça et la différence d'exécution dans la zone de marque, la marche était trop haute pour les Racingmen. Trop d'erreurs, trop d'imprécisions et une inefficacité à marquer jusque dans les derniers instants. Pour le Racing, place désormais au top 14 pour tenter de valider sa place en phase finale. Les Toulousains poursuivent, eux, leur chemin dans une compétition dont ils ont fait leur priorité cette saison.
Et le Stade Toulousain recevra Exeter le week-end prochain pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de la Champions Cup. Un stade de la compétition qu'ils ont toujours atteint depuis 2019. Merci beaucoup Arthur, place désormais au Red Journal. Après le Stade Toulousain, on part pour le TFC bien sûr, qui jouait aussi dimanche après-midi. Pierre, c'était contre Strasbourg, score final.
0-0, bien triste et décevant entre les Toulousains et les Strasbourgeois. En fait, aucune équipe n'a su desserrer le frein à main. Alors on y était avec Timothée Piette, franchement on était d'accord pour dire que ça avait tous les contours d'un match plaisant et animé. Il l'a été, mais vraiment trop peu. Les deux équipes étaient calquées sur le même schéma tactique, un 3-4-3. Elles avaient peur de se découvrir, et ça s'est vu. Après l'émouvant hommage et la minute de silence pour Adrien, supporter du TEF décédé cette semaine, le match a pu démarrer sur un rythme effréné. Les Violets ont directement eu des occasions avec une tête de Costa au-dessus à la quatrième. Et puis la sieste du dimanche a commencé, le Racing a contrôlé le rythme, un rythme lent et soporifique, avec quelques éclairs quand même pour nous réveiller. Il y a eu des occasions avec Gamero qui envoie une mine juste au-dessus de la cage de Rest avant la pause. Puis voilà, c'est à peu près tout, parce qu'on a eu beaucoup de fautes techniques, des passes ratées, des incompréhensions, franchement indignes de deux équipes qui pensaient à l'Europe. Trois petits tirs cadrés pendant 90 minutes, c'est peu, en tout cas trop peu pour rompre le 0-0.
Mais alors, à qui profite ce point ?
Bah tout le monde et à personne à la fois. En fait, faut regarder les deux côtés de la pièce. D'un côté, on a deux équipes contentes de prendre un point. Les deux étaient à égalité avant le match. Elles le sont toujours, évidemment. Ce petit point, c'est une étape en plus vers le maintien, surtout que personne n'a gagné dans le bas de tableau, à part Montpellier. Mais de l'autre côté, bah, y a de la déception aussi pour Moussa Diarra, titulaire dans les rangs toulousains dimanche après-midi.
Bien sûr, on joue tous les matchs pour l'emporter. Du moment où on ne gagne pas, on est forcément déçu. Après, il y a deux types de déceptions. Les déceptions caoutchiques, les déceptions où on apprend. Celle-ci, je pense qu'on apprend et on continue à avancer. On monte une marche.
Oui, il y avait moyen de mieux faire, parce que si on parle du top 10 maintenant, c'est mission impossible ou presque. 6 points d'écart avec Lyon, le 10e, 10 avec Lens, 6e, qui occupe la première place qualificative pour l'Europe, les deux équipes devront se contenter d'une place au tableau d'honneur, je pense. En fait, ce Toulouse-Strasbourg, c'est un rendez-vous manqué. L'opportunité de se rapprocher de l'Europe, de s'éloigner de la zone rouge, et de prendre de l'avance sur un concurrent direct, et au final, rien du tout.
Et c'est d'autant plus décevant quand on sait que c'est le premier 0-0 entre ces deux équipes depuis 20 ans. Merci quand même Pierre. On passe désormais au bref. Et c'est l'heure de l'actu en bref. Bonjour Axel.
Bonjour PA, bonjour à tous. Deux semaines après avoir été contraint à l'abandon à Melbourne, Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon pour la troisième année consécutive. Le pilote Red Bull, triple champion du monde, a devancé son coéquipier Sergio Pérez. Carlos Sainz, pilote Ferrari, vient compléter le podium. Avant de s'élancer pour le marathon de Paris, il n'avait pas vraiment de référence en termes de résultats. Mulugeta Uma a remporté son premier grand marathon dimanche dans les rues de la capitale française. L'Éthiopien s'est imposé en 2h, 5 minutes et 33 secondes. Chez les femmes, c'est sa compatriote Mestawut Fikir qui l'a remporté. Sans Rafael Nadal, le Master 1000 de Monte-Carlo a débuté hier. C'est le premier tournoi de la saison européenne sur terre battue. Beaucoup d'enjeux donc pour les participants. L'Italien Yannick Sinner veut confirmer son excellent début de saison. Novak Djokovic, lui, va vouloir se relancer. Et du côté tricolore, il va falloir faire un bon début de saison sur terre battue avant les grandes échéances à venir, à savoir Roland-Garros et les Jeux Olympiques. Le coureur espagnol Juan Ayuso a remporté samedi la 63e édition du Tour du Pays Basque. Malgré la victoire de l'Espagnol, les Français ont su briller. Paul Lapeyra a remporté la 2e étape, tandis que Romain Grégoire a gagné le sprint de la 5e. Le premier Français au classement général est Kevin Vauquelin à la 8e place. On finit ce flash avec de tristes nouvelles. Nicolas Holweck, président de l'AS Nancy-Lorraine, est décédé ce lundi à l'âge de 52 ans. Il avait révélé en mars 2021 souffrir d'un cancer. Icône du French Flair, la légende du rugby André Boniface s'est lui aussi éteint aujourd'hui à l'âge de 89 ans.
Merci beaucoup Axel, on passe désormais à notre carte blanche de la semaine.
Van der Poel, 59 km 600, mais c'est beaucoup trop tôt, d'habitude c'est à 43 que tu fais ça Mathieu.
Ce dimanche avait lieu la 121e édition de Paris-Roubaix, la reine des classiques, et pour l'occasion l'équipe Alpecin de Koenig avait sorti la grosse armada, et Bastien sans grande surprise, c'est le champion du monde Mathieu Van Der Poel qui a écrasé la course.
60 km de l'arrivée, moment choisi par Mathieu Van Der Poel pour placer une accélération décisive dans le secteur d'Orchies. Assis sur sa selle, tout en puissance, le Néerlandais dépose ses adversaires du jour. Mats Pedersen, Stefan Kung ou encore Nils Polit, personne ne peut suivre le champion du monde. Ils ne le reverront jamais. Une semaine après son numéro sur le Tour des Flandres, il s'envole seul vers le vélodrome de Roubaix. L'écart à l'arrivée, 3 minutes. À 28 ans, Mathieu Van Der Poel rentre un peu plus dans l'histoire du cyclisme. Il remporte Paris-Roubaix pour la deuxième fois, sa 6e victoire sur un monument.
Et finalement, l'attraction de cette édition, ce n'était pas vraiment la bataille des pavés.
Elle était attendue, redoutée et scrutée. Je parle évidemment de cette chicane installée à l'entrée de la mythique Trouée d'Arembert. Alors pour rappel, la Trouée d'Arembert, c'est un moment clé sur Paris-Roubaix. Imaginez une longue ligne droite de 2,5 km à travers les arbres, des pavés glissants et déformés. Bref, un calvaire pour tous les coureurs.
Mais alors pourquoi avoir installé cette chicane à l'entrée de la trouée ?
Eh bien, l'objectif était simple, ralentir les coureurs pour diminuer le risque de chute à pleine vitesse. Les années précédentes, les coureurs entraient dans la trouée d'Arambet à près de 60 km/h. Autant vous dire que la moindre chute causait d'importants dégâts. En 1998, Johan Museu avait failli perdre sa jambe après une chute dans la trouée. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette chicane n'a pas fait l'unanimité. Décriée par certains, dont Mathieu Van Der Poel, soutenue par d'autres, on vous laisse vous faire votre propre avis. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle aura eu l'effet escompté. Aucune chute à signaler dans la trouée cette année.
Une chicane qui a été installée à la demande même du syndicat des coureurs.
En cause, l'augmentation de la gravité des chutes dans le peloton professionnel. Ces dernières saisons, ça roule plus vite et ça frotte davantage. Plus de risques égale plus de dégâts. Dernier exemple en date, une lourde chute la semaine dernière sur le Tour du Pays Basque. Plusieurs leaders du prochain Tour de France ont fini au tapis. Bilan, une lésion des poumons, des côtes et une clavicule cassée pour Jonas Vingegaard, une omoplate et une clavicule fracturée pour Remco Evenepoel, ou encore de multiples brûlures pour Primoz Roglic. Alors, que faut-il mettre en place pour garantir la sécurité des coureurs ? J'avoue ne pas avoir la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle réflexion à mener sur ce sujet.
Et j'ajoute même qu'il y a 2 semaines, c'est Wout Van Aert qui a subi une terrible chute sur À travers la Flandre. Il souffrirait d'une contusion à un poumon, d'une fracture de la clavicule et de plusieurs fractures aux côtes. Merci en tout cas Bastien, et désormais, cap sur les JO. Depuis quelques semaines, nous vous parlons des Jeux et dans cet épisode, nous parlerons des Jeux paralympiques. Cette année à Paris, pas moins de 23 disciplines seront représentées. Mais Marie, tu vas nous parler de 3 disciplines dans lesquelles nos Français ont une réelle chance de médaille.
Oui, tout à fait. Et on va commencer par un sport que l'on connaît bien à Toulouse, le rugby. En parasport, il se fait en fauteuil et le capitaine de l'équipe de France est évidemment toulousain. Jonathan Hiverna, moins connu qu'Antoine Dupont, il a pourtant inscrit 29 870 essais dans sa carrière. Lors de la Coupe du Monde en France, il avait emmené ses coéquipiers jusqu'en quart de finale, perdu d'un point, comme le 15 de France face au Japon. Après le match, le capitaine a donné rendez-vous, ils seront prêts pour les Jeux et comptent bien aller plus loin. Pour y arriver, ils pourront compter sur Riyad Salem. Revenu avec les Bleus avec le sélectionneur Bob Van Acker, il fera tout pour aller chercher une nouvelle médaille, parce que oui, il fera ses 6e Jeux à Paris. Et c'est l'un des plus beaux palmarès français handisport. Il a un record du monde en relais 4 nages et 15 titres de champion de France en paranatation, 3 fois champion d'Europe de basket fauteuil et récemment double champion d'Europe de rugby fauteuil.
En triathlon, le champion paralympique en titre est français et il est le grandissime favori à sa propre succession.
On parle bien évidemment d'Alexis Anquincan. Le paratriathlète n'a qu'un seul objectif, décrocher l'or à Paris. Depuis son premier sacre dans sa catégorie PTS4, qui correspond à un handicap modéré, il est tout simplement invaincu. Et depuis, les titres s'accumulent pour le sportif, champion paralympique en titre, sextuple champion d'Europe et de France. Ne pas ramener l'or du pont Alexandre III où se dérouleront les épreuves de triathlon serait une véritable contre-performance pour Alexis Anquincan.
La France a aussi d'énormes chances de médailles en paracyclisme avec Alexandre Léauté et Heidi Gauquin.
Le premier a seulement 22 ans et déjà 15 médailles à son palmarès. Rappelez-vous, c'était la révélation des Jeux paralympiques à Tokyo. Il avait ramené 4 médailles, dont le titre en poursuite sur piste. Il a ajouté 5 médailles d'or à sa collection lors des championnats du monde à Glasgow l'été dernier. Il faudra faire attention lors des Jeux parce que plusieurs catégories de handicap sont réunies, rendant la concurrence encore plus féroce, notamment en course en ligne sur route ou en contre-la-montre sur piste. Pour Heidi Gauquin, ce sera ses premiers Jeux à 18 ans. Elle est jeune mais a déjà un palmarès à en faire rougir plus d'un. À Glasgow, elle est devenue championne du monde de poursuite individuelle sur piste, mais elle s'est aussi offert l'argent de la course en ligne et le bronze en contre-la-montre. Elle est même le double championne du monde junior chez les valides. Paris n'est qu'une étape pour la jeune femme qui a dans sa ligne de mire Los Angeles en handisport mais aussi en valide.
Merci beaucoup Marie, on termine par notre quiz.
Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur ? Qui est meilleur ? C'est meilleur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est...
Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle.
Vous l'avez tant attendu et c'est désormais l'heure du quiz. 2 équipes vont s'affronter. À ma gauche, Bastien et Marie. Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va tranquille. Et à ma droite, Paul Gaillardot et Pierre. Comment ça va ?
Ça va.
Vous êtes tous prêts ?
Ouais.
Allez, c'est parti. Première question, quels sont les clubs français qualifiés pour les quarts de finale de la Champions Cup ?
Toulouse, La Rochelle, Bordeaux.
Petit bonus peut-être, les adversaires, Paul ?
Etc. Harlequins et je sais plus le dernier. Harry Leinster.
Exact, ça fait un bon point à ma droite. Deuxième question. Qui a terminé deuxième de Paris-Roubaix?
Mats Pedersen.
Et non.
Philipsen.
Oui, exactement. À combien de temps, peut-être, Paul, encore
Ah non,
précision,
désolé.
Non oh, okay. Ah, en fait, c'était à 3 minutes hein, que le Belge a fini de Mathieu Van Der Poel. 2-0 à ma droite. Troisième question maintenant, donnez-moi s'il vous plaît l'autre club que Nicolas Hollweck a présidé avant l'AS Nancy-Lorraine.
Stade Rennais.
Exactement, c'est un bon point à ma droite. Ça fait 3-0 pour l'instant.
C'est fini.
Quand même, on va s'en faire deux dernières, Bastien.
Pour l'honneur.
Pour la forme, pour l'honneur. Quatrième question, peut-être que celle-là, tu vas la voir. Qui a remporté le marathon de Paris? Et je veux aussi le temps.
Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un Éthiopien en 2h05.
Ouais, 2h05, j'avais aussi, mais...
Oh, tu m'as dit en premier, ouais, je vais t'accorder le point. Et en fait, il s'agissait de Malugeta Uma en 2h05 et 33 secondes, plus précisément. Et enfin, dernière question, celle-là, bon, c'est une question un peu historique. En quelle année a eu lieu le premier derby entre Liverpool et Manchester United?
1899.
Presque.
1898.
Non.
96.
Presque.
1901.
Non.
1897.
Non.
1895.
Non.
1894.
Exact. Et ça fait 2 points. 3-2. En l'occurrence, il s'agissait d'un match de barrage à Edwood Park à Manchester. Le score 2-0. Les buteurs Gordon et Bradshaw à la 30e minute devant 3000 spectateurs.
Je n'ose pas imaginer à quoi ça ressemblait. Hein.
Merci beaucoup. C'est une victoire donc de Paul Gallardo et de Pierre à ma droite. Vous êtes contents, les gars?
Mamos.
Mamos.
Et voilà, 3 buts à 2. Et c'est la fin de cet épisode de JT Sport. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que Twitter. Quant à nous, on se retrouve jeudi soir pour Phoenix, c'est son Rennes, en direct live sur notre Facebook. D'ici là, à la semaine prochaine et vive le sport! See.